Voilà, donc le thème de l'enseignement de ce soir est mudita, qui est la joie. Et je crois que c'est très très important de cultiver la joie. Moi, ça fait des semaines, voire des mois, que cette qualité m'habite, m'aide, me soutient dans les moments difficiles. Et peut-être que vous allez comprendre pourquoi. Mudita, c'est la joie, mais c'est surtout aussi la joie altruiste ou empathique, certains aiment à l'appeler sympathique, qui est aussi le fait de pouvoir se réjouir des bonnes circonstances ou de la joie qui est ressentie en autrui. Donc, c'est une qualité qui naturellement est à nouveau désintéressée. Il ne s'agit pas trop quelque part de cultiver des qualités qui vont augmenter notre égocentrisme, mais bien au contraire, des qualités qui vont nous aider à pouvoir être un être épanoui au contact d'autres êtres épanouis. Et ça, ça se travaille, en tout cas pour ma part. C'est quelque chose qui est par moments assez spontané, c'est évident, mais à d'autres moments, pas tant que ça. Donc, le Bouddha, à nouveau, nous dit avoir en la conscience, en l'esprit, le nôtre, une source inépuisable de qualités positives, de qualités qui sont vraiment importantes à cultiver et qui sont les qualités aussi d'un être éveillé. Donc, spontanément, lorsque on a le fruit, si vous voulez, de cette pratique, ce qu'on appelle l'éveil, eh bien, ces qualités sont généralement installés en nous, plus stables. Et donc, il y a naturellement la bienveillance, hein, cette bonté, metta. Et il y a plusieurs personnes qui ont vraiment pu évoquer pendant les entretiens cette dimension de bonté, de bienveillance qui se cultive, qui se nourrit, et combien cette qualité-là est aidante lorsqu'il y a des difficultés. Cette qualité de bonté est une attitude. C'est une attitude intérieure, c'est vraiment quelque part une qualité de l'esprit qui va ensuite s'exprimer en compassion lorsqu'il y a un besoin de manifester, par exemple, un soutien par rapport à la présence de souffrance, la présence de mal-être. D'accord? Donc c'est quelque part cette bonté qui s'exprime en compassion, c'est-à-dire en présence d'être capable, quelque part, d'aller dans le sens de l'accueil de cette souffrance, l'accueil de la douleur, que ce soit la nôtre ou celle d'autrui. Et ensuite, cette extraordinaire capacité de pouvoir exprimer la joie incommensurable, inépuisable, comme toutes ces qualités, elles sont illimitées, quel que soit le contexte. Et que l'on peut à ce moment-là naturellement développer. Ce sont des sources, des fontaines, et qu'elles jaillissent à ce moment-là suivant les circonstances. Donc compassion et joie s'équilibrent. On comprend bien que la vie pleine de malheurs, pleine de désastres, on va dire, a aussi quelque part un potentiel de beauté, de réjouissance. Et notre tendance, surtout au travers de ce qu'on nous donne comme information, hein, et c'est évident que notre orientation va beaucoup dans le sens des malheurs du monde, voire des désastres, de la misère, la pauvreté, la famine, les guerres, les conflits, enfin tout ce qu'on peut nommer de vraiment douloureux. Et donc il y a naturellement un penchant pour quelque part intégrer ceci de façon consciente ou inconsciente, hein, et qu'il est à ce moment-là moins facile de percevoir toutes les dimensions de notre existence et toutes les manifestations, les expressions qui peuvent aussi provoquer en nous des réjouissances. De la beauté, procurer de la vraie joie, se réjouir aussi de la joie d'autrui lorsqu'il y a des événements qui sont bénéfiques pour autrui, qui se produisent, et bien qu'on puisse aussi accueillir ceci. Donc c'est intéressant de percevoir combien on peut aussi dans notre propre pratique, hein, vraiment, comme je l'ai dit l'autre soir, et j'ai beaucoup parlé des émotions douloureuses, hein, et donc se figer dans un type de perspective à vouloir résoudre les difficultés sans peut-être percevoir un autre angle qui fait qu'on intègre aussi toutes les dimensions bénéfiques de qualité qui sont là et qu'on n'a pas repéré dans une journée, dans une assise, dans un contexte plus large s'il en est. Donc il y a une focalisation de notre esprit et que cette focalisation, elle peut être inconsciente et qu'on peut naturellement à nouveau orienter notre esprit, et c'est là que la dimension de l'attention consciente ou de la pleine présence va nous aider à vraiment pouvoir prendre en compte ceci, orienter, focaliser, et ces qualités-là sont des qualités qui vont nous aider à focaliser notre esprit dans un sens bénéfique. Donc à nouveau, ce sont des pratiques. Donc pratique la générosité, on pratique, si vous voulez, l'éthique, hein, un comportement qui fait que nous sommes dans une certaine mesure en paix avec nous-mêmes, parce qu'on n'a pas à ressasser tous les comportements nuisibles qui n'ont simplement pas été éthiques. Donc il y a vraiment là une dimension qu'on peut explorer pour nous-mêmes. Donc toute cette dimension-là peut aussi être évoquée, ce n'est pas le sens du thème de ce soir, mais on peut très bien aussi avoir cet aspect à l'esprit. Et puis, on peut aussi focaliser donc cet esprit, cette conscience, sur cette dimension de la joie. À nouveau, je vous répète que l'état d'esprit présent qui est cultivé et qui est nourri pour l'instant suivant conditionne le suivant et le suivant. Donc comment est-ce que, par exemple, on nourrit la qualité de la présence, l'attention consciente, hein? C'est évident que vous l'avez cultivée, hein, cette attention, vous la cultivez encore. Hein? Un moment d'attention va nourrir le suivant et le suivant et le suivant. Donc c'est comme ça, c'est ainsi que vraiment il y a quelque chose qui fleurit, qui s'installe et qui s'enracine en nous-mêmes. C'est pas un petit moment puis toute la journée je laisse mes divagations s'installer. Il y a vraiment là une qualité de cultiver des notions, et la joie, c'est exactement de la même manière que l'état d'esprit présent qui est empli de joie va naturellement s'incliner, s'orienter pour le suivant. Ça permet quelque part un équilibre, et surtout lorsque on est submergé par la tristesse. Et c'est pour ça que j'aime donner cet enseignement ce soir, parce qu'il se peut que lorsqu'on a reçu l'enseignement il y a quelques jours sur les émotions, en étant en phase à accueillir, à être présent pour la tristesse, présent pour la colère, présent pour la peur par exemple, bien, en chemin, il est tout à fait naturel qu'en découvrant ces émotions lorsqu'elles sont présentes, eh bien, par moments, elles nous emportent et qu'on se noie dedans. Et lorsqu'on se noie dedans, eh bien, on réalise de façon assez claire qu'on n'est plus en équilibre. Okay? Donc ça, c'est assez logique. Donc, une des manières, c'est bien sûr de cultiver la présence, de pouvoir cultiver aussi cette dimension de la bonté. Et c'est ce que j'ai dit à une ou deux personnes aujourd'hui même, n'oubliez pas la joie. N'oubliez pas mudita. Qu'on peut aussi cultiver cette qualité qui va peut-être aussi nommée dans le sens de l'appréciation de ce qui est beau, l'appréciation de ce qui est bon, l'appréciation de voir un beau ciel. Les rencontres sont multiples. Moi, je sais que ici, il y a plein de moments où tout à coup, waouh, c'est merveilleux, c'est voilà. Et peut-être qu'on passe à côté si on est complètement noyé dans notre tristesse et qu'on est pris dans une aversion, quelle qu'elle soit. Donc, il y a là un facteur, c'est pas. Et on peut entendre ceci, on se dit non, mais alors on fait comme si. Non, c'est pas faire comme si, justement. Il ne s'agit pas du tout de faire comme si, c'est au contraire de pouvoir s'accompagner pour aller dans un sens d'équilibre. C'est-à-dire de voir aussi la perspective de ce qui est porteur et ce qui va aider, plutôt que de fermer les yeux et quelque part se noyer, être submergé et se perdre. Donc cette dimension, le Bouddha l'a appelée célébrer la vie. Pouvoir aussi célébrer la vie. Donc j'imagine qu'il a pu célébrer la vie il y a 2600 ans et qu'il y avait aussi des malheurs. Hein, donc c'est pas que les circonstances étaient exactement parfaites. Hein, mais il y a aussi naturellement des possibilités de pouvoir célébrer la vie et de prendre en compte cet aspect de bonté, de beauté dans les personnes et dans les circonstances, dans la nature. Donc une inclinaison est quelque part une intention à nouveau, en tout cas pour ma part, d'être dans cette perspective et si je peux vous la transmettre, c'est que ça a vraiment demandé une certaine, comment dire, oui, une intention, une aspiration de sortir de cette spirale de la souffrance dans laquelle je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais beaucoup finalement de complaisance. Voilà. Et quand il y a une complaisance, eh bien, on se dit, tiens, ouais, s'il y a de la complaisance, il y a un peu d'attachement à cette souffrance en fait. Hein. Voilà, c'est ce que je connais, puis j'aime bien rester avec ce que je connais. Puis du coup, ça a demandé vraiment une orientation et une intention et waouh, quelque part, une élévation pour en sortir. Pour vraiment sortir de cet état sombre, contraignant, noirci, puis pff, voilà. Autant pénible d'y demeurer, mais autant pénible d'en sortir. C'est tellement intéressant ça. Jusqu'à ce que on réalise que quelque part on se complaît. Donc c'est merveilleux cet enseignement parce qu'il est tellement plein de compassion justement. Parce que ce que je nomme là, c'est la compassion quelque part, de pouvoir avoir cette compassion qui est ouverte à la douleur et en même temps qui va pouvoir avoir cette main tendue qui dit, eh bien, allons dans un autre sens, orientons-nous dans un autre sens, plutôt que de rester coincé dans, souvent, bah, c'est ça, c'est l'hostilité envers soi-même, le manque d'estime de soi, le manque de confiance, voilà, tout ce qu'on peut nommer comme attitude qui va naturellement faire qu'on demeure enfermé. Donc, cette intention, elle est essentielle par rapport à tendre vers, cultiver cette bonne volonté, ce bon vouloir, bonne disposition, pas la volonté dans le sens de volonté de forcer, mais la bonne volonté qui fait qu'on peut prendre l'existence intérieure en nous-mêmes, voire la vie, même qui a des difficultés épouvantables, voire des horreurs, de façon plus légère. Cet épanouissement, il se trame au fil des rencontres. Et ce qui va émerger de ceci, c'est justement beaucoup moins de figement et de crispation dans notre propre esprit. que le fruit momentané même, c'est l'expression de la souplesse et de plus de légèreté, voire même d'appréciation. Ça va nourrir cette qualité de présence désintéressée. Plutôt que d'être dans une perspective de qu'est-ce qu'il y a là pour moi, en moi, ou comment je peux me défaire quelque part de cette dimension d'étroitesse d'esprit qui est souvent confinée à vouloir trouver quelque chose pour moi, à moi, qui fait que je suis très perdue dans mon petit moi, eh bien, va nous aider à aller dans le sens de la nature un petit peu plus empathique, ouverte, sympathique, désintéressée du contact avec l'existence. Ça va ouvrir le champ de notre existence. Et ça va apporter une autre chose qui est absolument essentielle, qui est incroyable, qui est que à ce moment-là, il y a beaucoup plus de contact avec l'impermanence. C'est-à-dire que quand on est comme ça enfermé, on se dit « mais ça va durer pour toujours, toute la journée, ça va être comme ça ». Et on ne perçoit pas les choses véritablement qui fait qu'elles changent. Qui fait que ça change, que ça bouge, que c'est justement très vivant. Hein, quand on parle du vivant, soit Charles Schwab, moi-même, soit Sandrine, ben c'est ça, c'est quelque part l'expérience directe. Et dans l'expérience directe, on perçoit bien qu'à un moment c'est comme ça, puis à un moment c'est comme ça, puis voilà, c'est pas quelque part figé ou permanent. Donc cette dimension de cette nature vivante, ben, elle est aussi là pour nous montrer la qualité de l'esprit qui peut être enjoué par moment, allégé, soulagé. Ce qui va apparaître à ce moment-là, en tout cas pour moi, c'est mes mots, hein, je peux vous parler en mes mots, c'est que quand nous ne sommes pas attachés à ce que nous pensons être, eh bien, à nouveau, la vie peut nous traverser. Et il y a vraiment là un décollement de la manière de se percevoir et d'être attaché à cette manière de se voir. Ça va vraiment aller dans le sens de quelque part, dénouer les croyances, dénouer les schémas d'habitude, dénouer les comportements mentaux qui fait qu'on s'enferme et on s'enferme très facilement. Donc, quand on commence à voir les choses en perpétuelle transformation, et en plus, c'est chouette parce qu'il y a des fois où ça se passe, hein, à ce moment-là, on a aussi cette disposition de libérer un petit peu le contrôle. Cette manière de vouloir absolument tout contrôler. Cette maîtrise par rapport à comment ça devrait être, comment ça devrait se passer, comment ça ne se passe pas. Et puis, ce relâchement du contrôle, eh bien, il va nous libérer les énergies qui sont souvent figées, même les énergies physiques. Donc dans le sens des nœuds émotionnels, nœuds dans notre espace de vie tout entière, corps, conscience, nœuds mentaux, où on est figé et on croit que on est dans une perspective de contrôle et que cette tour de contrôle... elle est vraiment plus un empêchement qu'autre chose. Ce n'est pas du tout là un repère. C'est au contraire un nœud central qui fait qu'il y a beaucoup de... oui, d'égocentrisme. Donc désirer, aspirer à pouvoir se nourrir, s'aider, vraiment s'accompagner en cultivant ces qualités diverses et variées, la qualité de l'attention, on a parlé de la tranquillité au début de la retraite, qualité naturelle qui se développe aussi, la qualité de l'attention, de la sagesse, de l'investigation, du discernement, de la lucidité. Toutes ces qualités qui sont tout à fait aidantes et qu'on peut nourrir au fil de nos journées ici et qui vont nous aider, nous accompagner quand on s'en ira. Chancha dit ceci, dans la pratique, le désir peut être un ami ou un ennemi. Dans la pratique, le désir peut être un ami ou un ennemi. En tant qu'ami, il nous donne envie de pratiquer, de comprendre et de mettre fin à la souffrance. Mais être toujours en train de désirer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vouloir que les choses soient autres que ce qu'elles sont, finit par causer encore plus de malheur en nous-mêmes, et c'est alors que le désir peut devenir un ennemi. Finalement, nous devons apprendre à lâcher tous les désirs, même le désir d'éveil. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être libres, et il dit encore plus que libres, joyeux. Donc il y a vraiment cette extraordinaire capacité, si Achancha le dit, hein, donc c'était un très grand maître de la tradition de la forêt de Thaïlande, hein, il y a beaucoup de livres en français grâce à Jeanne Schutt qui ont été traduits de Achancha, et il a vraiment cette dimension de pouvoir transmettre son enseignement à travers la joie, à travers la légèreté, à travers, c'est pour ça que je le cite beaucoup. Les Birmans ont un peu moins cette capacité, je vous le dis franchement. Et Dieu sait si j'ai pratiqué en Birmanie bien plus longtemps, je n'ai jamais pratiqué en Thaïlande. Mais voilà, c'est une autre orientation. Là, il y a un langage beaucoup plus guerrier. Il faut tuer le désir, tuer l'aversion. Vraiment, c'est très intéressant. Comme le langage est complètement différent, bien sûr que le sens de la pratique elle-même, mais il est formulé d'une manière beaucoup plus, qu'est-ce qu'on va dire, guerrière. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous comprendrez entre mes lignes ce que je veux dire. Donc cette joie, elle a de nombreuses formes d'expression. C'est absolument génial de percevoir que cette joie, elle peut naturellement être une joie très sereine, très délicate, à peine goûteuse, comme ça. Voilà, c'est... Oh, voilà. Comme elle peut aussi, bien sûr, virer en excitation extrême, hein, en enthousiasme, donc beaucoup plus expressive. Et elle a donc toutes ses saveurs, suivant les circonstances, et que c'est important de pouvoir quelque part goûter à toutes ces saveurs. Dans la méditation telle qu'elle est proposée ici, l'équanimité, cette quatrième qualité qui est liée à ces quatre illimités, l'équanimité va quelque part nous aider à comprendre et surtout à vivre qu'il y a de la sérénité. C'est-à-dire que c'est justement cette dimension-là qui fait qu'il n'y a pas cet aspect de « pour moi, à moi » d'intérêt personnel. Ce sont des qualités altruistes, ce sont des qualités désintéressées et qu'on les cultive dans ce sens-là. Donc, il y a vraiment cette manière de pouvoir intégrer le fait que, bien sûr, j'en jouis parce que c'est moi qui pratique, c'est moi qui me nourris de ça, mais qu'ensuite je suis un être qui vais pouvoir l'exprimer pour autrui, comme je peux ressentir de la joie lorsqu'il y a naturellement quelque chose de bénéfique qui se manifeste à l'extérieur de moi. Donc il y a vraiment cette disposition d'interdépendance. Cette qualité d'équanimité, quelque part ressenti comme de la sérénité, fait que c'est libre d'attachement et d'aversion. Cette qualité-là, tranquillement, elle est quelque chose qui va émerger d'un espace ouvert, centré, sans saisie. Voilà, on peut dire ça. Elle est déjà en nous, hein. Donc comme toutes ces qualités, elles sont déjà présentes en nous. C'est évident qu'on n'a pas à les fabriquer, et quelque part lorsqu'on commence à les ressentir, c'est qu'on a libéré en tout cas quelques couches de contraction, de peur et de figement qui font que ça les entrave, ça entrave ces qualités. Lorsqu'on ne peut pas avoir en même temps une expérience de peur extrême ou de colère et de joie. C'est difficile d'avoir les deux en même temps. Et c'est évident qu'elles peuvent naturellement se succéder, hein, mais ça ne peut pas cohabiter. Voilà. Comme tout est momentané. Donc, il y a des causes et conditions qui vont aider à les ressentir. La joie, comme la bienveillance, elle permet donc, comme je l'ai dit, d'équilibrer la souffrance. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment extraordinaire si on a des moments où tout à coup on se sent qu'on s'effondre, ou qu'on se sent impuissant, ou qu'on sent même une vague de désespoir. C'est absolument incroyable et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, et pas qu'une fois, de vraiment aller puiser dans ses ressources et que la ressource de la joie à ce moment-là, c'est quelque chose qui va être, qui nous paraît quelque part dans les concepts conceptuellement absolument impossible, mais qui dans la réalité de notre rapport à nous-mêmes, nous redonne une certaine vitalité. Et déjà rien que cette vitalité, ça nous sort du gouffre. Ça nous réveille dans le sens de « ouais, mais je suis en vie, en fait voilà, ». Ce n'est pas du tout, quelque part, le figement qui fait que tout s'effondre et que tout est perdu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très précieux. Et ça va nous donner de la force pour continuer, poursuivre notre chemin, persévérer. Donc ça, c'est la joie dans le sens d'une pratique qui est... clairement manifeste en nous-mêmes. Et puis, au niveau des Brahmavihara, donc là, il y a la joie empathie qui fait qu'on se réjouit de la joie en autrui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette capacité de pouvoir se réjouir de la présence de la joie dans une autre personne ou dans d'autres personnes. C'est se réjouir des succès d'autrui, se réjouir de... la réussite, se réjouir des bons accomplissements, des bonnes actions, se réjouir de la générosité qui peut être exprimée. Et ça va complètement contrecarrer les autres dimensions qui sont souvent pas citées, mais qui sont la jalousie. La jalousie qui est vraiment une dimension, une émotion, un sentiment extrêmement nuisible. On peut faire des choses horribles par jalousie. Ou l'envie, c'est-à-dire vouloir ce que les autres ont. Il y a beaucoup de ça hein, dans notre monde aujourd'hui. Donc jalousie, envie, toute cette dimension de compétition qui fait que vous pourrez marcher sur l'autre pour y arriver. Puis c'est ça, hein, je veux dire... les grosses entreprises et puis tout, c'est fou, ils sont constamment en compétition les uns avec les autres hein. Je veux dire au niveau collectif c'est incroyable et qu'est-ce qui nourrit ça? L'avidité, la soif la soif donc on peut réellement avoir peut-être en présence et peut-être demain ou ce soir vous pouvez avoir le quelque part à l'esprit, et là, il peut y avoir des réflexions. De la même manière qu'on peut avoir des réflexions par rapport à la bonté, des réflexions qui font qu'il y a quelque part une personne qui représente quelque chose de joyeux en vous, qui est naturellement là, présente, et c'est assez simple, et qu'on ressent cette joie et qu'elle peut s'exprimer. Vous voyez, par exemple, pour moi, c'est très simple. Hein. Je veux dire, presque tous les jours, il y a la joie que je ressens quand Charles est heureux que son équipe de foot a gagné. Ou que l'équipe de foot adverse a perdu. C'est selon. Et donc, c'est génial. Moi, j'ai aucun intérêt dans cette activité-là. Mais rien que... Ah, j'attendais, moi, j'ai dit, ah, voilà, la gazette. Et ce matin, c'était même... avant qu'on se dise bonjour, c'est « Ah ouais, tu sais, l'équipe de Suisse !» Donc vous voyez que ça peut être extrêmement trivial, ça n'a pas besoin d'être une joie spirituelle dans un accomplissement extraordinaire, d'avoir atteint le troisième niveau de l'éveil. Donc il y a aussi cette dimension qu'on est dans ce monde et qu'on vit dans le monde. Et de même, il y a un autre, vraiment une autre perspective qui fait que j'ai beaucoup de joie quand je vais chez ma sœur et que sa chienne vient dire bonjour, puis qu'elle est là, puis que voilà, c'est merveilleux, les animaux sont merveilleux, elle est là, elle me reconnaît, ça fait, ouais, la dernière fois, ça faisait 2 mois qu'elle ne m'avait pas vue. Et puis c'est comme si on ne s'était pas quitté, quoi, je veux dire, extraordinaire, puis qu'on joue avec la babale et tout. Ben, voyez comme quoi, voilà, c'est simple hein, d'avoir des petits moments. Je veux dire, c'est ça qui est précieux, des petits moments. Et en plus, elle s'appelle Shanti. Donc ça, c'est encore mieux parce que Shanti veut dire paix en sanskrit. Donc voilà, des petits exemples de la vie quotidienne, des petites choses, des petites réjouissances. Hein. Quand il y a quelque chose, un plat qui vient, qui a été si bien préparé par Michel ou Philippe, et tout à coup, on se réjouit. « Ah, oh, waouh, c'est super, je me réjouis de manger ça !» C'est quelque chose de très, très ouvert, très léger. Et bien sûr, plus sérieusement, la joie que je peux éprouver en voyant la pratique, votre pratique des uns et des autres s'épanouir. C'est encore un autre niveau de joie. Mais il est là, il n'y a aucun doute qu'il y a aussi ça, quand vous avez quelque part fait des découvertes, c'est assez extraordinaire pour nous. Donc on est tous entourés d'une personne, d'une situation qui incarne et qui manifeste cette joie un peu spontanément. En tout cas, je vous le souhaite. Si ce n'est pas le cas, ben, il faudra simplement un petit peu réveiller votre imagination. Et donc, on peut se réjouir des qualités de cette personne. Et c'est à l'idée même, à l'évocation, à l'exemple, là, je le sens en parlant, combien ça réveille, ça suscite cette joie de façon assez spontanée. Donc, se réjouir pour autrui va affermir notre pratique. Vous voyez, se réjouir pour autrui affermit notre propre pratique. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'on a envie de puiser dans cette source, cette fontaine de vie. Et ça va nous donner une base extrêmement vertueuse pour générer quelque part une éclosion de cultiver les vertus, les qualités, la pratique et continuer à persévérer. Donc si on pense à la joie, eh bien, dans la pratique et la manière de le pratiquer, c'est que quelque part on peut souhaiter, et la phrase est très simple, c'est que cette joie qui t'habite, ou que le bonheur qui t'habite, ou que ces bonnes circonstances, si vous voulez, que ce succès, cette réussite, ou que cette joie ne fasse que s'amplifier. C'est ça la phrase. Ne puisse que s'amplifier, grandir, s'épanouir. Et donc à ce moment-là, rayonner. C'est l'antidote à la jalousie. De la même manière que la générosité est l'antidote au désir attachement. De même que metta, la bonté, est l'antidote à la haine ou l'hostilité. Donc il y a là, de par la pratique, naturellement quand on cultive l'antidote, eh ben, on va bien sûr vivre un petit peu plus au contact de ses qualités et les autres tendances qui sont des émotions douloureuses, des sentiments pas franchement sympathiques vont tranquillement un tout petit peu diminuer. Donc l'envie et la jalousie dans ce cas par rapport à la joie, eh bien ce sont les opposés. sont des états mentaux opposés. Et l'envie s'est figée et s'est vraiment positionnée sur, quelque part, le désir de vouloir ce que l'autre a, c'est-à-dire sur la personne. D'accord? C'est que j'aimerais tellement avoir ce que cette autre personne a. Donc ça, c'est l'envie, si vous voulez. Donc c'est vouloir cette autre possession, vouloir leur maison, vouloir leur voiture, vouloir leur situation de vie. Voilà. Donc c'est très intéressant de se rendre compte que quelque part, c'est l'envie qui est vraiment ouais, le désir de posséder. La jalousie, elle est beaucoup plus douloureuse à ressentir s'il y a une tendance à la jalousie, parce que cette jalousie, elle est fondée non pas sur l'envie ou sur le désir, mais sur l'aversion. Donc la jalousie qui est fondée sur l'aversion, c'est quelque part nourrie de quelque chose d'assez hostile en fait. C'est pas vouloir que l'autre possède ce que nous on n'a pas. Vous voyez, il y a des nuances là. Hein? Et donc on peut très bien sentir qu'il y a peut-être un des deux qui est un tout petit peu plus présent que l'autre lorsque on a ces états d'esprit qui sont des états d'esprit de comparaison, ces états mentaux de jugement, de là émerge le jugement. Voilà, et de se rendre compte, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a là en réalité? Est-ce que c'est présent dans le sens de une phrase qui peut venir, c'est pourquoi il ou elle a ce que moi j'ai pas? Et du coup, c'est très intéressant d'explorer ça en relation avec autrui. Il est dit que la jalousie est ressentie comme quelque chose de beaucoup plus douloureux parce que, y a de l'animosité, il y a de l'aversion, il y a de la frustration et il y a même parfois de la violence, de l'hostilité qui fait que on a un comportement agressif envers cette personne. On veut même, et on le voit, détruire l'autre. Alors on peut le voir du côté personnel, mais c'est incroyable combien ça peut aussi se montrer au niveau collectif. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, si on regarde un tout petit peu ce qui se passe ici ou ailleurs. J'ai pas envie d'aller dans le contexte mondial. Mais on peut, si on en a l'envie, faire des réflexions conscientes sur où ça pourrait se passer. Donc la qualité de la pratique, c'est ouvrir l'esprit à la joie. Ouvrir l'esprit à la joie. Et c'est vraiment un des moyens les plus sûrs de éprouver et de cultiver le bonheur en nous. C'est absolument génial. Vraiment, c'est assez extraordinaire. De la même manière que vous pouvez peut-être maintenant avoir une expérience directe de metta, de la bonté bienveillante, eh bien, on peut avoir cette même qualité par rapport à cette joie qui fait qu'on accueille ce qui est bien, on accueille ce qui est bon, on accueille et on se réjouit. Donc cette qualité-là, elle est absolument nécessaire dans un monde qui fait que on en a besoin. Ça élève l'esprit, ça ouvre l'esprit. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser. Moi, je sais que tous les jours, j'ai un petit moment où je cultive la joie, comme je viens de l'exprimer. Et puis, il y a aussi cette superbe qualité qui fait que on relie la joie, et dans l'enseignement, elle est reliée à la gratitude. La gratitude, c'est une façon de pouvoir naturellement relier. C'est extraordinaire, c'est la générosité d'autrui qui nous met dans une perspective de pouvoir recevoir la bonté et en réalité de nous réjouir de ce qu'on reçoit de l'autre et de dire merci. Oh, l'appréciation, le contentement. tout ceci est pris en compte. Pas uniquement voir les manques, ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait qu'il y ait pour qu'on soit heureux, tout ce qu'il faudrait qu'il y ait que en nous. En... Voilà. Et c'est assez simple en réalité, ça nous apaise. Ça apaise notre existence. Donc la compassion et la joie dans ces quatre Brahmavihara s'équilibrent. Vraiment, il y a un équilibre absolument extraordinaire. Dans la prochaine quinzaine, il y aura un enseignement sur la compassion. Ce que fait la compassion, et je crois que c'est vraiment important d'équilibrer les deux, elle empêche la joie de dégénérer en optimisme artificiel. C'est comme ça que je le nomme, moi. Vous voyez ce que je veux dire, l'optimisme artificiel, cette espèce de naïveté où on voit, oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ben non, on est bien d'accord que ce n'est pas le cas. Hein. Donc ce sentimentalisme naïf, vous voyez, qui souvent est dit, bah, tiens, voilà, c'est ça, c'est la pensée positive. Hein. La pensée positive, ça peut justement ne pas tenir compte de la dimension douloureuse de l'existence. Donc on perçoit les choses comme si c'était un monde merveilleux. Eh bien non, on est dans le monde tel qu'il est, hein, la réalité. Là, le bouddhisme, il est assez franc. Il dit, voyez les choses comme elles sont, mais n'oubliez pas de voir qu'il y a aussi de la beauté, de la générosité, de l'entraide, de la solidarité. Et donc, la compassion va empêcher la joie de dégénérer dans cet optimisme artificiel. Et en même temps, on peut savourer justement l'appréciation de l'entraide et de la solidarité, de l'expression des êtres qui vont vraiment se donner d'une manière incroyable. Il y a des gens aujourd'hui qui perdent leur vie pour aider les autres dans des contextes vraiment assez douloureux, difficiles. Et c'est incroyable la mission de ces personnes. Je veux dire, moi, je suis émerveillée. Nous, on a du courage d'être ici, hein, mais alors eux aussi, hein, ils ont du courage, je peux vous dire. Waouh, ça... C'est très émouvant de pouvoir quelque part percevoir que ouais, il y a des êtres qui ben voilà, qui sont dans des situations extrêmement compliquées et qui ont de toute évidence cette base de compassion. Et donc on a besoin de cultiver la joie et on a aussi besoin de cultiver la compassion. Plus les perturbations grandissent, le Bouddha dit, plus vous avez besoin de qualités spirituelles pour vous aider. Ces qualités-là sont des qualités spirituelles. C'est évident que aussi nous avons ce qu'on nomme les facteurs d'éveil. Et donc, il va y avoir un exposé. Les facteurs d'éveil sont des facteurs justement mentaux, hein, c'est des états mentaux qui vous... nous donner confiance et qu'on va cultiver et il va y avoir un exposé sur ces facteurs d'éveil qui sont essentiels, qui sont vraiment tellement importants dans la pratique et la cultivation de Vipassana. Donc on éclaire cette clarté. On essaye d'être libre de la saisie, de l'aversion, de l'attachement, et on peut progressivement aussi s'aider et se nourrir de ces qualités. La recherche neuroscientifique, je viens de lire un article, là, il n'y a pas très longtemps, ne cesse de faire des découvertes par rapport à la neuroplasticité et combien notre cerveau est souple et que c'est inimaginable combien le fait de cultiver ces qualité-là, expressément la joie, il disait surtout cultiver la joie, augmente l'activité des zones du cerveau associées au positif. Et que, indépendamment des circonstances, on peut vraiment nourrir notre être dans le bon sens. Donc voilà, après, c'est intéressant de se rendre compte que, après un certain temps de méditation, quand on était à l'AMS, après 3 mois, ils sont venus pour nous tester avec les branchements et tout. Je ne sais pas si ils ont. Si on a eu une étude en fait, et ils ont pu percevoir par rapport au calme, par rapport à la tranquillité, la concentration, les effets justement sur le cerveau, et que la méditation est extrêmement bénéfique. Donc ça, c'est extraordinaire que la science rejoigne quelque part la spiritualité et qu'elle tienne compte de ça. Je crois que c'est vraiment un progrès immense, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pratiquent. Il y a aussi cette dimension-là. Et donc c'est très réjouissant. Donc dans l'un des discours, c'est le Vajjimanikaya 99, le Bouddha dit « Cette joie liée à la santé de l'esprit, cette joie liée à la santé de l'esprit, je l'appelle un équipement. Soyez équipés. Un équipement pour développer un esprit qui est tout simplement sans hostilité ni méprise. » Vous voyez, donc c'est pas quelque chose qui fait qu'on a besoin vraiment de toujours être content, voilà, se débarrasser des tendances négatives. Non, le fait même d'être sans hostilité, sans méprise, c'est-à-dire confusion, eh bien, va nous aider à nourrir cette qualité et guérir nos tourments. Guérir notre aversion, guérir notre hostilité. Je vais terminer par un petit texte du Dhammapada. Je crois que Charles a mentionné le Dhammapada l'autre soir. C'est vraiment un des textes les plus anciens, des écrits du Bouddha. Enfin, c'est pas lui qui a écrit, mais qui viennent du Bouddha. Et ça dit ceci. « Vivez dans la joie, dans l'amour. » Même parmi ceux qui haïssent. Vivez dans la joie, dans la sérénité, même parmi les affligés. Vivez dans la joie, dans la paix, même parmi les perturbés. Regardez à l'intérieur de vous. Ne vous agitez pas. Libre de la peur et de l'attachement, connaissez la douce joie du chemin. Ça, c'est extraordinaire d'être sur ce chemin. Connaissez la douce joie du chemin. Voilà, donc je peux que vous inciter à incliner votre esprit dans le sens de la joie, de la gratitude, par petits moments, comme vous pouvez le faire en lien avec la bonté. Il y a bien des journées où nous avons... on a tout le temps ici. Hein. On a du temps. Donc... Et on pratique, on est sur notre coussin ou sur un banc à l'extérieur ou en marchant. Puis voilà, de temps en temps, vraiment, se rappeler de ses qualités. Et puis, plus on les cultive, c'est vraiment des bonnes semences. Et c'est génial comme elles peuvent grandir au contact de notre être et combien on peut s'en abreuver. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute du Dharma. Demain après-midi, nous aurons aussi une méditation de joie altruiste guidée. D'accord ? J'espère que ça vous ira. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se développe et se déroule. Parce que comme pour la bonté, il y a quelque part un cheminement qui est proposé de l'enseignement du Bouddha. Et ça peut vous aider peut-être à... Ensuite, les cultiver chez vous, il y a des méditations guidées.